Quitter sa famille, ses amis, son pays et tout ce qui nous y rattache, voilà l'exil. Pas seulement géographique, mais aussi une brisure dans les repères. Isolement, déracinement, traumatisme du parcours migratoire peuvent peser lourdement sur la santé mentale. À Laval, l'association ICAR 53 accompagne au quotidien des personnes en situation d'exil. L'accueil, l'écoute et les liens sociaux créés ici deviennent vitaux pour se reconstruire. Elle apporte soutien et expertise sur la santé mentale. Soutenir l'association, c'est aussi mettre en avant la souffrance et tout le travail autour du psychotraumatisme et de l'interculturalité pour penser la reconstruction.
On connaît les blessures du corps, celles que l'exil inflige parfois le long de la route, mais il y a aussi celles qui ne se voient pas, la mémoire des violences, la peur qui revient, l'arrachement qui s'installe. Pour parler de ces blessures invisibles et de la manière dont on peut les apaiser, nous recevons aujourd'hui Séverine Rousseau, coordinatrice de l'association ICAR. Merci d'être avec nous.
Merci à vous, bonjour à tous.
Alors, pour commencer, Séverine, j'aimerais vous demander, quand on parle de santé mentale et d'exil, de quelles blessures invisibles parle-t-on concrètement ?
Alors, effectivement, dans la santé mentale et l'exil, nous, on recouvre énormément de choses parce qu'on voit que ça se joue à plusieurs niveaux. Quand on parle des blessures invisibles, nous, on va mettre le mot de psychotraumatisme derrière. Le psychotraumatisme qui va être induit par un vécu traumatique, des confrontations à des situations extrêmes, à une peur, c'est la frayeur, c'est la peur de mourir, qui fait que du coup il y a une effraction au niveau du psychisme et qu'il peut y avoir des symptômes derrière qui sont parfois très envahissants. Mais quand on parle d'exil aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de symptômes anxio-dépressifs qui s'installent, dû aux conditions d'accueil en France, dû aux conditions des familles qui restent au pays, beaucoup d'inquiétudes, dû aux pertes aussi induites par l'exil, toutes les pertes réelles, ça peut être effectivement l'emploi, le logement, on laisse de la famille derrière, mais c'est toutes les pertes symboliques aussi, la perte de statut social, la perte de la reconnaissance qu'on avait dans la société, qu'on n'a plus ici. En tout cas, il y a une place qu'il faut retrouver et ça induit énormément d'anxiété.
Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être quand même pour commencer l'association ICAR, quand et comment l'association est née ?
Oui, alors l'association ICAR, elle est née en mai 2020, tout début d'activité, création de l'association en mai 2020, début d'activité fin 2020 et puis après ça a été un petit peu plus exponentiel jusqu'à aujourd'hui. C'est une association qui est soutenue aujourd'hui par l'ARS, par la DETS et la Fondation de France qui sont nos financeurs principaux tous les trois. C'est une association qui est vraiment née du terrain ici parce que toutes les fondateurs et les fondatrices de l'association en fait avaient déjà travaillé alors et à l'international pour les deux psychos qui étaient à l'origine de l'association et sur le terrain aussi en Mayenne dans des structures comme la PASS à l'hôpital qui est la permanence d'accès aux soins ou à France Terre d'Asile aussi pendant de nombreuses années ou en intervention en tant que vacataire pour les psychos. Et en fait, il y avait eu beaucoup, donc les deux psychologues qui étaient aussi à l'origine de la création de l'association avaient beaucoup également de retours ou de demandes de professionnels qui intervenaient sur le terrain et qui se questionnaient vraiment sur, autour des accompagnements, qui posent des questions à différents niveaux. Soit au niveau justement de la santé mentale, de ce qui est induit par l'exil, d'une meilleure compréhension des symptômes du psychotraumatisme, de la détresse psychosociale, des symptômes anxio-dépressifs, mais également des éléments d'interculturalité. Donc l'association elle est vraiment née de ça, en fait, des rencontres avec les personnes et avec les professionnels sur le terrain. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de réponse. Alors, il y a eu des débuts de réponse en termes de prise en charge, notamment à la PASS, à l'hôpital, en 2018, avec un poste de psychologue qui a été créé. À France Terre d'Asile, je crois que c'était pareil, c'était 2018-2019, mais avant, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est vrai que les professionnels qui intervenaient sur les centres d'accueil étaient quand même assez démunis pour pouvoir orienter le public. Il y avait des orientations vers les CMP, mais qui étaient complexes aussi, avec la barrière de la langue, avec la prise en charge du psychotrauma, qui est vraiment très spécifique. Donc de là est née justement vraiment cette volonté de proposer un espace qui soit vraiment spécifique, aussi pour que la seule porte d'entrée soit l'exil, parce qu'il y avait, quand on pense à la PASS, à France Terre d'Asile, il y avait toujours des conditions pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement psychologique. C'était pour les personnes hébergées. Quand on quittait l'hébergement, on ne pouvait plus avoir. Donc il y avait ces ruptures-là dans le soin aussi qui venaient émailler encore plus les parcours. Et donc on a voulu vraiment créer une association qui soit où la seule porte d'entrée, ce soit l'exil. Donc aujourd'hui, c'est ouvert à toute personne exilée, peu importe le statut administratif en France, peu importe l'âge, peu importe la langue parlée.
Et alors concrètement, quelles sont vos principales missions sur le territoire au quotidien ?
Ouais. Alors du coup, nous, nos missions, elles se déclinent autour de deux axes. Un axe vraiment auprès du public exilé, où on va proposer un accompagnement thérapeutique pour la prise en charge des symptômes du psychotraumatisme et de la détresse psychosociale et symptômes anxio-dépressifs, avec une entrée dans la prise en charge toujours avec une séance de psychoéducation où on vient rencontrer les personnes et expliquer c'est quoi les blessures invisibles dont vous parliez tout à l'heure et comment on les identifie, quels sont les symptômes, parce que beaucoup de personnes en fait vivent ces symptômes sans mettre de sens dessus. Donc du coup on propose ces réunions de psychoéducation, c'est vraiment une porte d'entrée pour nous vers le soin. Et après, des accompagnements thérapeutiques, alors j'essaye de vous la faire simple. Principalement, au début de l'association, l'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur des thérapies groupales. Donc aujourd'hui, on propose toujours des thérapies groupales qui mêlent du coup, des éléments de psychothérapie, de médiation artistique et de médiation corporelle. C'est des thérapies qui vont durer, qui vont se mettre en place sous 8 séances, où on a un groupe soit d'hommes, soit de femmes, avec une homogénéité au niveau de la langue. Et où on va travailler justement sur tous ces symptômes. Alors clairement, en 8 séances, on ne traite pas le psychotraumatisme, surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui souffrent de psychotraumatisme complexe. Mais l'idée, c'est déjà une première étape de stabilisation pour reprendre du contrôle par rapport aux symptômes, parce que la plupart des personnes qui viennent jusqu'à nous, en fait, ont une perte totale de contrôle sur les symptômes et c'est extrêmement envahissant dans le quotidien. Donc c'est déjà voilà, une stabilisation et puis travail avec la dynamique de groupe aussi, hein, sur l'identification avec les parcours de chacun. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'on ne confronte pas les personnes au trauma, on ne demande pas aux personnes de raconter ce qu'elles ont vécu, pour beaucoup c'est impossible et ça ferait revivre. Donc on a vraiment une autre approche. Et donc on axe beaucoup voilà, sur les thérapies groupales, où on voit aujourd'hui qu'on a de plus en plus de thérapies également individuelles, alors soit pour des locuteurs pour qui on ne peut pas faire de groupe, parce qu'il n'y a pas suffisamment de locuteurs ou parce qu'on n'a pas d'interprète, parce que qui dit groupe dit aussi interprète en présentiel, donc ce n'est pas structuré en Mayenne le réseau d'interprétariat, donc on rencontre quand même des limites à ce niveau-là. Donc on peut avoir des thérapies individuelles pour ces personnes ou pour les personnes qui ont fait une thérapie en groupe et qui présentent encore des symptômes qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin, ou des personnes pour qui le groupe n'est pas indiqué, ou quand il y a des comorbidités, ou de l'errance, de l'addiction, ou d'autres troubles qui voilà, nécessitent une prise en charge d'un individuel. Et un deuxième axe, excusez-moi, qu'il ne faut pas que j'oublie, deuxième axe aussi de soutien en professionnel, plus rapide dans l'explication, où là, en fait, on propose des temps ressources. Donc, c'est gratuit. Hein, nous, on s'est intégré dans nos financements. Des temps ressources pour les personnes et bénévoles du département qui interviennent auprès des personnes exilées et qui pourraient avoir des questionnements par rapport à des situations. On voit bien que les situations sont extrêmement complexes parfois, qu'elles posent beaucoup de questions. Donc, du coup, l'idée, c'est de proposer un temps avec y injecter, nous, notre regard autour de l'exil, de l'interculturalité, du psychotrauma et puis d'essayer de trouver des leviers. Hein. On n'a pas de réponse à tout, mais ça permet voilà, de prendre un temps déjà autour des situations et puis d'élargir le regard.
J'allais dire, quel type de traumatisme rencontrent le plus souvent les personnes exilées que vous suivez ? On a pu voir qu'il y avait, ou plutôt les symptômes alors, ouais. Parce que les traumatismes, j'imagine, c'est divers et variés.
Alors, les traumatismes, effectivement, si vous entendez quel type de vécu peut y avoir derrière ces traumatismes, c'est assez varié. Maintenant, la plupart des personnes qu'on rencontre aujourd'hui ont un vécu quand même avec des situations très graves, hein, avec des violences interhumaines. C'est pour ça, quand on parle de psychotraumatisme aujourd'hui, où on dit qu'il y a beaucoup de psychotraumatismes complexes, le psychotraumatisme complexe, c'est quand ça s'installe dans l'enfance ou quand il y a des menaces et des violences qui sont répétées ou des violences interhumaines qui font que voilà, c'est pas traité et puis ça s'accumule en gros. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont vécu des violences au pays, sur le parcours, et à l'arrivée en Europe également. On parle de violences extrêmes, hein, vraiment de menaces directes des violences verbales, des violences psychologiques, des violences physiques, enfin violences sexuelles. Donc vraiment les parcours sont très différents, les histoires sont très différentes, mais la nature des violences reste quand même les mêmes et extrêmement grave. Donc aujourd'hui, un psychotraumatisme, c'est un psychotraumatisme. Il n'y a pas différentes formes de psychotraumatisme à part le complexe. Mais ça reste un psychotraumatisme, mais avec des symptômes qui vont être effectivement différents pour chacun, plus ou moins bruyants. Des personnes qui présentent un psychotraumatisme et pour qui on ne voit pas les symptômes. En gros, il y a trois types de symptômes. Alors, il y a l'hypervigilance avec les troubles du sommeil. Hein. On entend beaucoup de personnes, nous, qui nous disent « je dors 2 heures, 3 heures par nuit » et puis après, c'est terminé, en fait. C'est comme si, voilà, l'alarme ne s'arrête pas. Du coup, la personne a été dans un danger extrême et c'est comme si elle y était encore. Le psychotraumatisme, en fait, c'est un événement qui n'a pas pu être intégré au niveau de la mémoire et qui reste dans la mémoire traumatique et qui se rejoue au présent, qui n'est pas mis au passé. Donc il y a les symptômes d'hypervigilance avec le sommeil, les troubles de mémoire, la difficulté. On entend beaucoup de personnes dire « mais moi j'essaye d'apprendre le français, mais en fait ça ne rentre pas. Quand j'étais au pays, je n'avais pas du tout de difficulté pour apprendre, aujourd'hui je n'y arrive pas. C'est comme si tout ce qu'on veut oublier... ça prend toute la place et toutes les nouvelles choses, ça part. Nombre de personnes qui oublient les rendez-vous, qui perdent le téléphone dans le bus, qui perdent le... Enfin, ça, c'est vraiment commun. Forcément, ça engendre beaucoup de difficultés dans le quotidien. Et ici, c'est pas forcément compris, hein, forcément, je pense aux médecins, tout ça, où forcément, ça met en difficulté. Hein.
Ça fait partie des symptômes.
C'est ça qui est important. Ça fait partie des symptômes. Les troubles de la mémoire, les troubles de la concentration, hein, cet esprit qui repart toujours ailleurs, qui fait que les personnes n'arrivent pas à être vraiment pleinement ici, c'est compliqué. On a aussi des symptômes de reviviscence. Donc là, c'est vraiment, on va dissocier ça des réminiscences où on peut se remémorer quelque chose. Nous, on peut se remémorer un événement désagréable quand on était petit sans le revivre. Les reviviscences, on les revit. Ça peut être avec les mêmes douleurs dans le corps, ça peut être avec le cœur qui se remet à battre très vite, le corps qui chauffe, la tête qui chauffe. Donc on revit les choses. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont aussi peur de dormir parce que ça revient aussi dans les cauchemars. Donc, il peut y avoir aussi des peurs de dormir parce que peur de faire des cauchemars et où, quand ça arrive, les personnes sont là-bas. Le corps est ici, mais la tête est là-bas. Donc, et puis, ça, c'est assez... voilà, ça fait peur aux personnes, hein, forcément, puisqu'elles sont reconfrontées tout le temps au même... Ça s'explique par, en fait, le cerveau qui essaye d'intégrer, mais qui n'arrive pas, en fait. Il y a des personnes qui vont vivre un psychotraumatisme et si elles ont des conditions de vie derrière sécures, si elles ont un bon environnement, si elles ont des ressources externes qui sont présentes, des ressources internes suffisantes, vont pouvoir traiter le psychotraumatisme. On peut être confronté à un événement potentiellement traumatique, développer un psychotraumatisme. Nous, on va parler vraiment d'état de stress post-traumatique quand les symptômes s'installent au-delà de un mois. Bon, aujourd'hui, les personnes arrivent bien longtemps après, donc ça s'est installé depuis bien plus longtemps que ça. Mais en gros, quand on vit quelque chose de très difficile, où on a eu très peur, c'est vraiment une effraction, c'est la frayeur. Normalement, dans le premier mois, c'est normal les cauchemars, c'est normal d'y repenser, c'est le cerveau qui essaye de traiter l'information. Quand ça s'installe après, c'est qu'en fait, il n'arrive pas à traiter l'information. Et parce que pour ça, il faut être dans des conditions sécures, avec du coup un environnement sécure, enfin, faut avoir vraiment toutes les ressources internes et externes présentes pour pouvoir traiter ça.
Donc. Et alors que ce sont des personnes qui ont perdu justement tous leurs repères en plus de ça, donc tout est...
C'est ça. C'est que là, les ressources externes, elles n'y sont plus. Parfois, les conditions de vie à l'arrivée, enfin, je dis parfois, mais c'est quand même très souvent, hein, c'est ultra précaire. Donc, quand on est sur le 115, par exemple, c'est très compliqué de pouvoir traiter justement cet état d'hypervigilance, puisque de base, de toute façon, quand on dort sur le 115, on est toujours en alerte. Enfin, c'est pas les mêmes conditions de sécurité, des conditions qui sont nécessaires pour le traitement du psychotraumatisme. Hein.
Qu'est-ce qui soigne le plus dans vos accompagnements, l'accès aux soins psychologiques ou déjà aussi le fait d'être entendu et reconnu, puisque je pense par exemple sur le territoire français, quand une personne ayant vécu des choses terribles, des traversées des fois particulièrement compliqué, c'est un euphémisme pour arriver jusqu'ici. Il y a aussi le manque de reconnaissance, le regard en plus du parcours et de la perte de repères et de tout ce qu'on a pu évoquer juste avant.
Oui, tout à fait. Nous, on est convaincus qu'en plus, cette reconnaissance-là, elle peut être portée par tout le monde, pas que par des structures de soins. Et c'est aussi l'enjeu des accompagnements vraiment des personnes qui arrivent tout juste sur le territoire, qui en plus, en fait, sont vraiment un élément important et primordial pour favoriser une insertion et une intégration des personnes dans la société. Hein. C'est pas en vain. Donc effectivement, la reconnaissance, c'est déjà une base. Nous, on dit souvent que la première base, en fait, c'est la réhumanisation des personnes qui ont été déshumanisées, qui ont vécu des violences déshumanisantes. Et qui ont perdu tout leur cadre de ressources externes. Alors, je pense la famille, les amis, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour de nous pour nous soutenir. Donc autour d'eux, il y avait pour les soutenir. Le cadre culturel aussi, donc ils arrivent dans un pays où les choses fonctionnent différemment, où on comprend les choses différemment, on se représente les choses différemment. Donc effectivement, il faut aussi réussir à naviguer là-dedans. Donc forcément, c'est très très complexe, avec des natures de violence aujourd'hui qui sont extrêmes. Il y a des choses, on ne peut même pas... moi, je ne les nommerais pas, en fait, tellement c'est extrême. Donc la base, et pour nous, ça, c'est quelque chose qui peut être porté par tout le monde, c'est la réhumanisation. C'est porter un regard humain sur l'autre, réhumaniser, parce que vraiment, le psychotraumatisme, ça vient aussi attaquer la confiance, la capacité à faire confiance dans un autre humain, en fait. Quand on a vécu des violences interhumaines, ça vient vraiment attaquer ça. Donc en fait, déjà, de restaurer ça, c'est une première base. Donc, et nous, ce qu'on fait aussi dans les psychoéducations, la mise en sens aussi des traumas, de comprendre, on voit bien hein, que souvent pour les personnes, du coup, il y a une très bonne adhésion aux soins quand les personnes ont participé à la séance de psychoéducation, puisque du coup, ils saisissent d'où ça vient, ils comprennent, ils mettent un sens, là où souvent ils se sentent très isolés, nous disent, mais moi j'ai l'impression de devenir fou, avec des difficultés à le dire parfois à l'extérieur, parce que... ils ne savent pas comment ça va être pris en charge ici. Et comme eux ont l'impression de devenir fous, ils ne savent pas comment la folie est prise en charge. Alors que nous, en psychoéducation, on dit que ce n'est pas de la folie, ce n'est pas une maladie, c'est des symptômes normaux. Enfin, on normalise vraiment les symptômes. Et après, je pense que ce qui est important aussi dans les thérapies, notamment dans les thérapies de groupe, c'est le fait d'être plusieurs à vivre les mêmes choses et de s'appuyer en fait sur les ressources des unes et des autres. Nous, on dit bien, on dit des choses, mais de notre place de femme blanche, quand même plutôt protégée. C'est un discours qui peut être parfois difficile à entendre de l'autre place où effectivement les réalités sont aux antipodes. Quoi. Parfois, je parle en termes de sécurité. Donc le fait d'être plusieurs, ça autorise aussi ça, à parler. Ça permet de se soutenir. Beaucoup de gens nous disent mais en fait, je retrouve une famille parce qu'il y a énormément d'isolement hein, chez les personnes qui arrivent. Donc vraiment ce sentiment de reconstruire des liens, et ça aussi c'est un hyper important.
Vous travaillez justement avec des interprètes, des soignants, ce qui est aussi un de vos principaux enjeux, vous nous l'avez dit, c'est aussi de pouvoir créer justement, de faire circuler la parole, c'est-à-dire que déjà d'être compris, on parlait de cultures différentes, et je pense que déjà c'est quelque chose qui peut mettre du temps aussi avant de s'installer.
Ouais. Alors nous, on ouvre assez vite la place à ça, à ICAR, effectivement, hein, sur les représentations, même au niveau du soin. Enfin, on va très vite sur le codage et sur même sur la compréhension des cauchemars, peut avoir différentes lectures. Donc je pense que ce qui fait qu'on peut assez vite y accéder, c'est que nous, on le nomme très vite. Donc là où peut y avoir plusieurs espaces où on ne va pas parler en fait de ça, donc les personnes ne parlent pas de la même chose, mais les personnes qui arrivent savent bien qu'elles ne parlent pas de la même chose que celui en face. Donc en fait déjà de le nommer, de dire il y a différentes manières de se représenter les choses, on sait que ça peut être comme ci, comme ça, puis on illustre en fait, puis on connaît pas toutes les manières de se représenter les choses, c'est impossible, c'est juste de laisser l'espace pour ça. Et puis le groupe du coup aussi ça s'auto-alimente. En fait.
Oui, c'est ça, c'est énormément porteur. Quels obstacles rencontrent les exilés quand ils veulent accéder aux soins psychiques en France, puisqu'il y a vous, qui permettait effectivement un accueil, un accompagnement. Mais vous en avez dit quelques mots auparavant, les soins tels que nous, on les connaît en dehors d'associations, ça n'a rien à voir quand on est exilé.
Oui, c'est ça. Alors, les principaux... il y a des obstacles très, très classiques, hein, la barrière de la langue.
Oui.
La mobilité, enfin, je parle notamment pour notre département, hein, où aujourd'hui les personnes exilées sont accueillies vraiment sur plusieurs villes du département et la mobilité est vraiment un frein. Justement, tout le codage culturel qu'on peut avoir dans la représentation du trouble, de la maladie et quel espace on a pour justement se rencontrer en fait et... On a besoin de cet espace-là. Nous, on ne va pas non plus dans l'espace de la personne qui arrive en mettant de côté toutes nos représentations à nous. Hein. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est de trouver un espace commun où nos représentations et leurs représentations peuvent cohabiter et puis essayer d'avancer avec tout ça. Que ce ne soit pas nos représentations d'un côté, les leurs de l'autre, mais si on ne se rencontre pas, on ne peut pas avancer. Donc effectivement, hein, ça demande quand même une approche, ça demande cette approche interculturelle.
Oui, c'est ça, vraiment de créer du lien. Et des professionnels formés à ce type de psychotrauma.
Ouais, alors le psychotrauma, c'est encore différent de l'interculturalité. Hein. C'est vrai que ça vient, le psychotraumatisme, de toute façon, c'est aussi, c'est universel, c'est vraiment... C'est neuro aussi, hein. Donc ça fonctionne pareil pour tout le monde. Et effectivement, on l'entend aussi, hein, que beaucoup de structures aujourd'hui de soins psychiques ne sont pas formées au psychotraumatisme et sont eux aussi en fait parfois en difficulté par rapport à ces symptômes-là. Parce que ça demande une approche très spécifique.
Est-ce qu'il y a justement, on parlait du territoire du département de la Mayenne par exemple, est-ce qu'il y a des particularités dans les parcours de personnes? J'imagine que quand on arrive jusqu'en Mayenne, est-ce qu'il y a eu un parcours particulier avant? Est-ce qu'il y a une particularité même du coup dans la prise en charge et dans l'accueil selon les départements? Ou est-ce que finalement il y a une organisation un peu partout en France qui s'équilibre?
Je pense que c'est très variable. Des parcours particuliers pour ceux qui arrivent en Mayenne, non, pas plus qu'ailleurs. D'autant plus qu'aujourd'hui, je pense notamment aux personnes qui sont en demande d'asile. Aujourd'hui, c'est organisé par l'OFI. Et en fait, on a beaucoup de personnes qui sont hébergées en Mayenne, mais qui sont arrivées à Nantes ou qui sont arrivées à Paris ou dans d'autres villes, en fait. Il y a vraiment une répartition des personnes sur le territoire en fonction des places disponibles. Et du coup, les personnes n'ont pas nécessairement choisi d'arriver en Mayenne. Il n'y a pas du coup nécessairement quelque chose de particulier. Les gens viennent d'endroits vraiment différents.
Et des associations comme la vôtre, il y en a un petit peu partout sur le territoire? Ou est-ce qu'il y a des endroits où il y a peut-être...
Alors, des associations exactement comme la nôtre, pas forcément avec exactement les mêmes missions, avec le soin qui a été comme... penser comme ça, pas forcément, puisque c'est vraiment l'année de... Et puis des professionnels qui étaient depuis le début dans l'association. Maintenant, il y a de plus en plus quand même d'endroits où justement il y a une prise en charge des symptômes du psychotraumatisme. Ça s'est beaucoup développé. Avant, on en parlait très peu. Hein. C'est avec les attentats de 2015 hein, et ce qui s'est passé derrière, la prise en charge des victimes, qu'on a commencé de plus en plus à parler de psychotraumatisme. Aujourd'hui, il y a des centres régionaux de psychotraumatisme. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Hein. Je me souviens, j'ai commencé à France Terre d'Asile en 2007. On ne parlait pas de tout ça. On parlait un petit peu du psychotraumatisme des personnes exilées, mais il n'y avait pas du tout de prise en charge spécifique. Aujourd'hui, on en parle quand même un petit peu plus. Alors, dans les grosses villes, je pense qu'il y a un accès peut-être plus simple, peut-être plus de moyens. Et encore, il y a plus de personnes aussi. Donc, je ne saurais pas vraiment dire. En tout cas, il y a différentes formes. Ce n'est pas forcément comme la nôtre, mais c'est pris en charge dans différents endroits et on voit que ça tend à se développer quand même.
En termes de financement, l'associatif est un peu mis en danger. Est-ce que des structures comme la vôtre le subissent aussi ?
Oui,
forcément, c'est ça.
Oui, malgré les soutiens, on a des soutiens évidents des personnes qui travaillent pour la dette, pour l'ARS. L'ARS nous soutient encore un peu plus cette année, malgré les soutiens des financeurs, malgré les soutiens des partenaires, la reconnaissance, hein, aujourd'hui on a une reconnaissance sur le territoire où tout le monde dit qu'effectivement il faut maintenir la structure, mais malgré tout on n'échappe pas aux coupes budgétaires, on n'échappe pas aux difficultés de vote de budget qui sont tardifs, donc décision de subvention en fait, qui arrive tardivement avec du coup une difficulté pour les associations à gérer en termes de trésorerie, enfin, on n'y échappe pas.
Oui. Pour terminer, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait changer à l'échelle de la société justement pour mieux prendre soin de ces blessures invisibles et de ces parcours, peut-être pour participer, intégrer, à accompagner, voilà. J'imagine.
Vous allez me faire glisser sur le politique.
J'imagine que dans le quotidien, on a dit que ça se passait aussi à plein d'endroits. J'imagine aussi que toute la stigmatisation générale, c'est des coups de massue en plus de tout ce qu'il y a déjà.
Bien sûr, c'est pour ça que je dis que vous allez me faire glisser par le politique, parce que ça commence par les conditions d'accueil. Hein. Effectivement, des conditions d'accueil plus stables, ça permettrait justement une meilleure prise en charge, et puis en fait que ça redescende plus vite, hein, et que ça évite justement de monter. Bon, après, ça, c'est pas, c'est au-delà de nos moyens, on va dire. Après, nous, chacun de nous, je pense qu'effectivement, dans le regard qu'on porte à l'autre, aujourd'hui, c'est très, très instrumentalisé. Mais c'est très instrumentalisé politiquement, mais au niveau, pas que en France, hein, au niveau de l'Europe, partout.
Ça se développe, ces discours.
Voilà, et du coup, moi, je me dis, chacun, nous, de notre place, c'est aussi faire attention, en fait, à ces discours, à comment ces parcours de vie sont instrumentalisés, parce que derrière tout ça, il y a des humains, il y a juste des hommes, des femmes, des enfants, des papas, des mamans, des gens qui travaillent, des gens qui veulent travailler, des gens qui veulent prendre soin de leur famille. Donc en fait, c'est juste vraiment essayer de faire attention à tous ces discours qui effectivement rendent le quotidien encore plus difficile, parce que les personnes le subissent et le ressentent. Donc peut-être faire attention à ça, et puis voilà, essayer de faire un pas vers l'autre. C'est tellement riche, parce que c'est aussi, là, on parle beaucoup de psychotrauma, de souffrance, de difficultés, mais c'est aussi des personnes qui ont une capacité de résilience de dingue. Donc, il y a plein de forces. Enfin, c'est très... tout n'est pas difficulté. Il y a des difficultés, il y a besoin de soutien, mais il y a aussi beaucoup de force, beaucoup de richesse. Enfin, ça fait presque 20 ans que j'accompagne des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et puis, en fait, c'est tellement riche, la rencontre, rien que la rencontre, puis ça nous fait apprendre beaucoup aussi sur nos propres fonctionnements, mais c'est ça, d'accepter d'aller à la rencontre de l'autre, lever peut-être des fois des peurs qu'on finit par intégrer par des discours médiatiques ou autres, et essayer de dépasser un peu ça pour aller juste à la rencontre de l'autre comme il est en face de nous, et voilà, réhumaniser.
Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup, Séverine, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous d'avoir pensé à nous.